Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous retrouver ce soir en direct pour cette troisième émission consacrée à la nature, à l'écologie et au monde agricole intitulée « Les pâturages du ciel ». Les Allemands ont un proverbe bien pratique « Einmal ist kein Mal », une seule fois n'existe pas. Les Français se répètent jamais 203. Alors je me permets une troisième et une dernière fois de vous expliquer ce doux nom de pâturage du ciel. Il rend hommage au merveilleux recueil de nouvelles de l'écrivain américain John Steinbeck. Dans une vallée de Californie, où le ciel et la terre rivalisent de beauté, au rythme rassurant des saisons, des fermiers prospèrent et d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent. Et cette émission a pour ambition, chaque mois, de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Pour la première fois, nous ne profitons pas d'une actualité brûlante, mais notre sujet n'en a pas besoin pour toucher tous nos auditeurs. Le Français qui sue à grosses gouttes en remplissant sa cuve de fioul ou en ouvrant sa facture d'électricité, le chef d'entreprise forcé d'arrêter la production quand les prix dépassent l'entendement, le paysan révolté par le gazole non routier qui augmente, tout le monde, hiver comme été, est touché par le thème de l'énergie. Pourtant, entre sigles barbares, transition énergétique, joules, watts et calories, on mélange un peu tout dans ce domaine. C'est pourquoi j'ai la chance d'avoir autour de moi des invités particulièrement pertinents. Alors en premier lieu, je vais vous présenter Fabien Bouglet. Bonsoir Fabien.
Bonsoir François.
Expert en politique énergétique, vous êtes l'auteur de deux livres que j'ai lus, consacrés pour l'un au nucléaire que vous défendez, pour l'autre à l'éolien que vous conspuez, et d'un troisième ouvrage, et je vous l'avoue, je ne l'ai pas encore lu, mais vous allez nous en parler ce soir, La guerre de l'énergie. Il est paru aux éditions du Rocher. Tanguy de Vienne, ensuite, fondateur d'une agence de communication Ad Vitam et d'un cabinet d'architectes. Alors, je crois que vous avez un attachement très fort pour le patrimoine que vous avez restauré ici et là en France, et vous vous intéressez particulièrement aux moyens d'optimiser la consommation énergétique au sein du bâti, et donc bien entendu aux moyens de produire cette énergie à l'échelle de vos projets.
Eh bien bonsoir.
Bonsoir Tanguy. Et puis enfin, nous avons un invité qui a un peu de retard, qui va nous rejoindre j'espère rapidement. C'est Jean-Marc Governatori, c'est un élu écologiste niçois. Il est candidat pour ces élections européennes qui auront lieu le 9 juin 2024 et il est tête de liste même pour l'écologie au centre. On l'attend, mais en attendant, je vais vous présenter bien sûr le programme de l'émission. Dans une première partie, on va parler de vos convictions à chacun en matière d'énergie. Dans un deuxième temps, nous allons évoquer l'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives pour notre pays en matière énergétique. Et puis, on va se demander, est-ce que l'on va aller vers davantage de dépendance ou est-ce que nous serons capables de breveter un procédé miracle, d'atteindre enfin un équilibre parfait sur le plan énergétique. Et puis enfin, nous discuterons de sujets d'actualité. Cela ira de l'annonce de Gabriel Attal pour une consultation sur le thème de l'énergie, à la révolution silencieuse qui a lieu dans le secteur nucléaire avec des annonces toutes récentes et puis un programme chargé pour l'année 2025 avec une fusion dont nous parlera Fabien Bouglet. Mais pour commencer cette émission, bienvenue à Jean-Marc Governatori qui vient de nous rejoindre. Voilà, je vous ai déjà présenté, donc je ne recommence pas. Mais je sais bien, je la connais par cœur cette ligne, elle est infernale. Eh bien, j'aimerais commencer par vous poser une question, votre définition de l'énergie et du mix énergétique idéal. Essayez d'être un peu synthétique, la question n'est pas simple. Je vais commencer par vous, Fabien Bouglet.
Eh bien, l'énergie, c'est ce qu'on va utiliser en complément de l'activité humaine pour faire un effet de levier de l'activité et relever la capacité d'action de l'homme. Alors, auparavant, on utilisait les bêtes, le charbon, un petit peu le feu. Ça a commencé avec le feu à la préhistoire. Hein. On utilisait le feu à la fois pour cuire la viande, donc pour assurer la lutte contre les parasites, augmenter les capacités cognitives, et l'humain a progressé de ce fait. Donc l'énergie, c'est cette capacité de l'humain de déléguer à d'autres systèmes la possibilité d'augmenter son action. Si je devais résumer, et cette énergie, ce système énergétique a évolué dans l'histoire de l'humanité avec une accélération au 19e, avec deux grandes révolutions fondamentales. La première, la découverte du premier puits de pétrole, plutôt de la première capacité d'extraire le pétrole en grande quantité avec le colonel Drake en 1859 aux États-Unis.
À l'ombre de Derrick.
Voilà, exactement. Qui a fait d'ailleurs que ça a été le début de la révolution de l'or noir, hein, de cette grande épopée de l'or noir. Et puis la deuxième invention.
Si je peux vous poser une question là-dessus, à quoi servait le pétrole à cette époque, puisque le moteur à explosion n'existait pas?
On utilisait le pétrole comme outil pharmaceutique pour calfeutrer les bateaux. Il y avait plein d'usages. C'était même, on retrouve l'usage du pétrole en Mésopotamie.
C'est ça.
Donc, il faut bien comprendre que le pétrole, on l'utilisait, on le prenait comme ça avec un seau. Ce qu'a fait le colonel Drake, c'est trouver un système pour pomper les nappes de pétrole dans les sous-sols. Et c'est ça qui a déployé de manière considérable. Et surtout, le pétrole s'est substitué au charbon dans l'industrie, en fait. Hein. Et donc, la révolution industrielle doit énormément au pétrole. Et puis, la deuxième invention très importante, c'est Thomas Edison qui trouve le moyen d'électrifier et qui crée la première ampoule qui fonctionne et qui dure, et donc il va électrifier les grandes villes et il va créer les premières centrales électriques en électrifiant New York, Washington, Berlin, Paris. Et puis, on en est resté là, hein, c'est-à-dire que notre société est basée à la fois sur les énergies fossiles, donc le pétrole, le charbon et le gaz, et sur la traduction qui peut intervenir de cette énergie fossile avec l'électricité. Et dans l'électricité, eh bien, il y a eu l'électricité aux fossiles, mais également l'électricité nucléaire et les électricités venant des énergies intermittentes éoliennes et panneaux solaires. Donc,
que l'on dit renouvelable, mais j'imagine que si vous avez employé le mot intermittente, c'est que...
Elles ne sont pas renouvelables, mais on pourra revenir sur le sujet. Donc voilà le, pour moi. Et donc, pour revenir à la question que vous m'avez posée le mix énergétique idéal, déjà, d'abord, il y a un souci sémantique, il faut vraiment bien distinguer le mix électrique, c'est-à-dire on va produire de l'électricité, comment on produit cette électricité, du mix énergétique. De manière générale, le mix électrique représente 25% du mix énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise 100% d'énergie, dans ce 100%, il y a 25% d'électricité. C'est pour ça que c'est important. Et au niveau mondial, le mix énergétique, donc toute énergie confondue, c'est 80% d'énergie fossile, gaz, pétrole et charbon, avec le charbon comme élément moteur qui est extrêmement polluant, qui soit l'Allemagne ou la Chine ou les États-Unis qui utilisent beaucoup de charbon. Pour moi, le mix électrique idéal, électrique, il est basé essentiellement sur le nucléaire, l'hydroélectricité et demain les centrales au gaz permutables en centrales hydrogène, parce que il y a une invention extraordinaire qui vient d'être dévoilée, c'est la turbine à gaz hydrogénée qui peut utiliser entre 0 et 100% d'hydrogène ou 0 et 100% de gaz. Donc on va pouvoir ponctuellement utiliser des centrales au gaz pour les pics de consommation et progressivement pourra l'alimenter avec de l'hydrogène blanc qu'on trouve dans les sous-sols d'Alsace-Lorraine, pour le mix électrique. Et puis, pour éviter qu'on utilise trop d'énergie fossile, alors moi j'aurais une vision un peu différente de Jean-Marc Governatori, mais je le laisserai parler,
voilà.
Pour des raisons de souveraineté.
Merci.
Il faut diminuer la dépendance aux énergies fossiles, puisque ça nous impose des importations considérables de pétrole, de gaz et de charbon. Et donc, il faut électrifier les usages, faire en sorte que cette part d'électricité eh bien, augmente dans ce mix énergétique pour diminuer nos importations d'énergie fossile.
Voilà. Fabien Bouglé, merci pour cette réponse dense. À votre voisin Jean-Marc Governatori de nous donner sa définition de l'énergie, une définition en tout cas qui lui semble pertinente, et puis bien sûr son mix énergétique idéal pour la France.
Mais pour rebondir sur les remarques de M. Bouglé, donc préciser que l'histoire montre, en tout cas les paléontologues le disent, que le premier feu a été découvert, le premier feu volontaire, c'était il y a 500 000 ans en Hongrie. Et bon, c'était peut-être le hasard des découvertes qui a fait que c'était à cet endroit-là, en Europe, donc fait par les hominidés de l'époque. Et par ailleurs, donc, le bois est encore plus polluant que le charbon. Hein. Donc quand on analyse la combustion du bois, elle est plus émissible de CO2 et de produits nocifs pour la santé que ne l'est la combustion de charbon. Et évidemment, nous sommes défavorables à l'utilisation du charbon. Mais il y a pire que le charbon encore. Donc pour répondre très clairement à votre question, donc, quelle est la définition de l'énergie ? Donc il y a plusieurs définitions possibles. La mienne, c'est de dire que c'est un élément visible ou invisible, qui permet une action ou la modification d'un élément matériel ou vivant. Donc un élément visible ou invisible qui permet l'action ou la modification d'un élément matériel ou vivant.
On retrouve le levier évoqué par Fabien Bouglé. Il y a tout de même une proximité dans vos définitions.
Ah, certainement.
En tout cas.
Peut-être plus brièvement. Et ensuite, concernant le mix, donc, nous sommes très favorables à la diversité. Donc, nous croyons beaucoup au BSP, le bon sens paysan. Et donc, c'est très important que d'avoir un mix énergétique aussi large que possible, en précisant que toutes les sources d'énergie, nucléaires compris, ont toutes des avantages et des inconvénients. Et par exemple, bon, on en parlera tout à l'heure, mais le nucléaire est aussi intermittent. Mais lui, il est intermittent par les pannes. Donc, il est intermittent par le fait qu'il faut... Il y a la corrosion, il y a des contrôles beaucoup plus fréquents, nécessaires, que sur l'éolien ou le solaire, qui a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Donc, nous, écologistes centristes, nous pensons que le bon mix énergétique, c'est un mix équilibré entre, effectivement, le solaire, qui a ses défauts et ses inconvénients, l'éolien, la biomasse, la géothermie, le nucléaire, si possible de nouvelles générations. Effectivement, on dit que les centrales à neutrons rapides, à sodium, seraient avec moins de déchets ou des déchets qui vont être réutilisés pour produire eux-mêmes de l'énergie, et qui seraient plus sûrs, bon, à voir. Et en tout cas, on n'est pas anti-nucléaire de base, quoi. Mais par exemple, on est contre les EPR, parce que les EPR, quand ils seront prêts dans 15 ans, seront une technologie dépassée. Donc c'est un peu dommage de faire des outils neufs dans 15 ans qui seront plus valables à ce moment-là, puisqu'une nouvelle technologie aura vu le jour. Et ensuite, la problématique, c'est aujourd'hui qu'on l'a. Mais la première source d'énergie, c'est l'éducation à l'environnement. Je pense que c'est une vraie problématique dans notre pays et dans le monde, cette non-conscience de la rareté des produits. C'est comme ça, hein. La planète fait 12 800 km de diamètre, elle fera tout le temps ce diamètre-là, et par définition, les ressources sont restreintes, ne serait-ce que l'eau, puisque donc 100% des énergies de quelque type que ce soit, nucléaire ou pas nucléaire, ont besoin d'eau, ne serait-ce que pour construire le produit, hein, ou alors pour la faire bouillir et créer de la chaleur. Donc forcément c'est limité. Donc la première source d'énergie, celle qui est extraordinaire, c'est l'éducation à l'environnement. Donc ce qu'il faut, on est là pour être heureux, on est là pour le bien commun, et il y en a que pour être heureux parce qu'ils ont cette culture là de l'abondance. On en parlera tout à l'heure avec monsieur Bouglé. Il faut être dans l'abondance pour être heureux. Nous, écologistes centristes, nous pensons qu'on peut être heureux dans le non gaspillage. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gaspillage et qu'on peut faire une action qui fera qu'on aura donc besoin moins d'énergie, parce que nous raisonnons gouverner, c'est prévoir, et donc nous ne pensons pas qu'au XXIe siècle, nous pensons que nous avons un devoir de prévision sur ce qui se passera au XXIIIe siècle, au XXIVe siècle, au XXVe siècle, parce que si les habitants terriens du XVIe siècle avaient eu les technologies, les outils qui s'étaient comportés comme nous aujourd'hui au XXIe, ben aujourd'hui il n'y aurait plus rien sur la planète. Parce qu'on va vous dire que l'innovation est un bel élément, mais tout produit confondu, tout secteur confondu, il y a 3 millions de brevets déposés sur la planète, donc par la Chine, les États-Unis, un tas de pays. Et donc tout secteur confondu, c'est 3 millions de brevets, et ça fait des décennies que ça dure. Et quand on voit la situation environnementale, sanitaire, financière du monde, avec autant de brevets, autant d'innovations, on peut se poser des questions sur l'efficacité réelle des innovations en question. Donc, Éducation à l'environnement, c'est la base de la base et c'est ça qui est capital.
Très bien. Bon, vous avez eu deux longues définitions. Tanguy de Vienne, c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver en troisième position.
Mais
après...
c'est compliqué d'être d'accord avec ses interlocuteurs déjà.
Parfait, vous pouvez nous dire quels sont vos désaccords, votre définition.
Je commencerai par celle de Google qui définit l'énergie comme capacité à effectuer des transformations. Et je trouve qu'en fait, elle résume très très bien les choses dans la mesure où le rapport de nos sociétés à l'énergie a d'abord été celle de l'émancipation. C'est-à-dire que l'énergie abondante, que ce soit dans un premier temps le charbon, dans un second temps le pétrole, a été d'abord un vecteur de développement et finalement envisagé comme sans limite. Nous sommes tous convaincus, fin 19e, d'une croissance éternelle promise par une énergie abondante. Et c'est de cette émancipation qui a d'abord été simplement un moyen qui aujourd'hui, en réalité, crée une dépendance et donc une fin en soi. On le voit d'ailleurs à travers tous les conflits, la course à l'énergie, à la recherche d'énergie, à la captation des ressources finit par être un enjeu pour tous et crée des conflits de multiformes, que ce soit des conflits sourds, des alliances aussi instables. Donc quand on parle de la régularité des approvisionnements, là encore, on peut se dire que la recherche de l'énergie fait que les alliances changent, et on a vu ces dernières années à quel point. Donc même des États pour lesquels on a des rapports assez neutres finissent par être des ennemis jurés, et inversement. Donc cette tendance générale, mondiale, j'en viens à mon mix énergétique idéal, donc il serait bien présomptueux aujourd'hui de dire quelle part de mix doit représenter chaque énergie. Il est absolument évident que le nucléaire, je partage avec mes interlocuteurs le fait de nos invités plutôt, le fait que le nucléaire est devenu une énergie absolument incontournable. Elle a en plus l'atout d'être régulière, pilotable, etc. Je partage totalement aussi le fait de fustiger ces énergies que l'on croit propres, que l'on dit propres, alternatives comme les éoliennes, alors que c'est une véritable catastrophe, il faut quand même bien le dire, enfin, nommons les choses. J'espère qu'on parlera aussi de la méthanisation, qui n'est pas non plus un horizon sans défaut, loin sans faux. Je trouve que le mix énergétique suppose, celui que je considère comme idéal, supposerait un changement d'état d'esprit, afin d'intégrer pleinement les petites unités de production, donc le micro-hydraulique en particulier. Cette rupture idéologique se ferait avec le gigantisme et la centralisation. C'est vrai que même si on est favorable au nucléaire, on peut se dire que le nucléaire a influencé les esprits, dans la mesure où on parle en mégawatts, en gigawatts, et finalement on déconsidère totalement ce qui est petit. Alors je sais que j'aime cette phrase de Think Small qui nous renvoie à une vieille pub Volkswagen qui justement mettait au rebut les énormes voitures américaines. Et je trouve que le Think Small est intéressant quand on a une possibilité de reproduction très très importante de petites unités de production.
Alors ça je réagis parce que c'est vraiment passionnant. Non mais ça c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir abordé cette question et je pense que...
J'avais juste un mot à compléter. Je voulais aussi parler de l'inertie. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point on en passe par l'énergie au lieu d'en passer par l'inertie. C'est-à-dire qu'au lieu de satisfaire un besoin immédiat, on en passe par la production énergétique de ce besoin.
Fabien Bouglé.
Oui, ça c'est une notion vachement importante que vous évoquez là. C'est le distinguo qu'il y a entre le mix électrique ou énergétique du pays, les besoins énergétiques d'un pays et les besoins individuels. Et de manière générale, on a tendance à confondre la liberté individuelle de faire de l'autoconsommation, panneaux solaires sur des locaux agricoles qui permettent de limiter la consommation dans le système centralisé, ou les petites éoliennes qui, dans les champs, permettaient de monter l'eau pour les animaux. Mais ça, ces mix, on va dire, individuels, c'est pas ce qui va permettre d'alimenter les besoins d'un pays. Parce qu'un pays, c'est des hôpitaux, c'est des entreprises de construction de porte-avions, de tanks, d'avions, d'industrie pour faire de la pharmacie, d'industrie de voitures. Donc, le besoin, on a dans une société souveraine, un pays souverain, des besoins en énergie absolument fondamentaux. C'est pour ça d'ailleurs que moi je considère que la question de l'énergie est totalement régalienne et ça, le ministre de l'énergie, ça devrait être le président de la République et pas un sous-ministre du ministre de l'économie et des finances. Ça c'est autre chose. Pour moi, l'énergie c'est une arme. D'ailleurs, c'est ce que j'ai évoqué dans mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial ». Et donc, je pense que, en fait, certains écologistes veulent calquer un comportement individuel, panneaux solaires, éoliennes ou autres, à un besoin énergétique au stade d'un pays.
Alors, vous faites un distinguo entre l'autoconsommation, effectivement, et la puissance énergétique, et vous estimez que les deux n'ont pas vraiment de lien.
Ils sont incompatibles. On va pas nourrir un besoin électrique d'un pays avec des panneaux solaires avec une quantité industrielle. Qui est des panneaux solaires dans la liberté individuelle, sur des supermarchés, sur des locaux agricoles, etc. Ça ne me gêne pas. Encore faut-il que ces panneaux solaires ne soient pas construits en Chine, mais soient construits en France. C'est un autre sujet. Mais on ne peut pas électrifier un pays. On ne peut pas construire des chars, des tanks, des armes, des porte-avions, etc., ou des sous-marins avec des panneaux solaires ou des éoliennes.
Alors,
il faut être très clair. Et donc, seul le nucléaire peut satisfaire.
Je vais laisser Jean-Marc Governatori réagir, puis Tanguy devienne conclure,
volontiers.
Puisque c'était sa remarque qui était à l'origine de la réponse de Fabien Bouglé. Jean-Marc Governatori.
Je pense que lorsqu'on a un débat sur l'énergie, avec des personnalités comme M. Bouglé ou M. de Vienne, je pense que la première question à se poser, c'est quelle société voulons-nous ? Effectivement, on peut imaginer qu'on veut une société axée, comme ça l'est aujourd'hui, sur le productivisme, le consumérisme, la compétition à outrance, et tout ce qui est géant, tout ce qui est complexe et tout ce qui va vite. C'est une option. Nous pensons que cette option a des limites. Nous pensons que ceux qui administrent la société sont là pour le bien commun durable, et nous pensons que le bien commun durable est incompatible avec l'obsession du géant, du vite et du complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Ça veut dire qu'il faut doser. Paul Valéry disait « tout est poison, rien n'est poison, c'est une question de dosage ». C'était très intéressant la remarque de M. Bouglé concernant les voitures, parce qu'effectivement, vous pouvez choisir de dire qu'il faut des voitures électriques en 2035, et par conséquent, vous allez mettre à la poubelle toutes les voitures thermiques parce qu'on considère que le carburant est inadéquat. Nous, on pense que c'est une faute, d'une part, parce que la batterie électrique, maintenant, c'est notoire et très polluante, parce qu'il faut du manganèse, du cobalt, enfin, tout le monde le sait, que c'est polluant à l'extraction, pour la terre, l'air et les personnes qui extraient. Ça nous rend dépendants de l'extérieur, et l'autonomie est un maître mot chez les écologistes centristes. Mais nous, évidemment, on dit que c'est une grosse faute de se séparer de la flotte de véhicules en France. Il y en a 40 millions, dont 30 millions qui roulent tous les matins. Donc, nous, on croit beaucoup à la réparation et au recyclage. Donc, par exemple, pour la problématique de l'émission de carburant par les automobiles, il faut évidemment un agrocarburant de troisième génération, c'est-à-dire que ça fonctionne soit aux algues, soit aux déchets verts, soit aux deux. On développe évidemment le covoiturage, qui est une super économie de carburant et de bouchons et vecteur de relations humaines. Et si effectivement vous partez de ce principe et que vous avez à beaucoup moins produire parce que l'économie circulaire devient l'économie reine, vous avez moins de besoins énergétiques. Et parce que dans la cohérence de M. Bouglé, il a raison, il a besoin de ce qu'il exprime, parce qu'il est sur un schéma qu'il faut une industrie automobile, qu'il faut l'industrie pour produire ceci, pour produire cela. Moi, je veux un pays, je veux une Europe, je veux un monde où l'économie circulaire est reine. Je veux qu'on recycle tout, je veux qu'on répare tout, je veux que nos villes soient infestées dans tous leurs quartiers, à toutes les rues de recyclerie, de ressourcerie et d'éléments de réparation. C'est la base de la base. Et là, vous aurez besoin de beaucoup moins d'énergie. Quand vous l'adossez en plus avec l'éducation et l'environnement, avec l'éducation au savoir-être, où on apprend à coopérer au lieu d'être tout le temps en compétition, vous aurez un besoin énergétique qui va largement baisser. Et de la même façon que j'exprimais tout à l'heure que la meilleure énergie, c'est l'éducation à l'environnement, la deuxième énergie, c'est l'économie circulaire, qui est extraordinairement productrice d'énergie, puisqu'elle fait qu'on en requiert beaucoup moins. Et donc, c'est vraiment une question de choix de société. Donc, M. Bouglet a raison dans sa logique à lui. Après, il va nous expliquer que l'abondance est très bien et c'est tout à fait respectable. Nous pensons qu'on peut être heureux sans abondance. On peut être heureux en ayant ce dont on a besoin de façon raisonnable. Mais ça passe effectivement par notre éducation et par la prise de conscience que nous sommes sur une planète qui fait 12 800 km de diamètre.
Alors, avant de laisser la parole à Tanguy Devienne, c'est très bien parce que naturellement, sans que je vous l'ai demandé, finalement, vous exprimez un peu votre manifeste, votre profession de foi sur le modèle de société aussi que vous envisagez. Mais un auditeur de Radio Courtoisie nous a écrit, c'est passionnant ce qu'il nous dit, donc j'aimerais lire son propos. Je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent nous écrire, on va les lire, on va, quand on aura le temps et si le débat le permet, les faire participer. Émission passionnante, nous dit-il, merci à tous les trois, apparemment ça commence bien. Monsieur Governatore, place en Hongrie, les plus anciennes traces de foyer, moins 380 000 ans, mais semble oublier ses propres racines niçoises avec Terra Amata qui remonte à 400 000 ans apparemment.
C'est pour ça que dans mon texte je parlais de 500 000 ans. Il a raison pour Terra Amata, c'est 400 000 ans, mais la Hongrie c'est 500 000 ans.
Ah, lui parle de Verstetolos qui serait à 380 000 ans.
Voilà, mais c'est pourquoi j'ai dit la Hongrie à 500 000 ans et j'espère que dans l'audio on le retrouvera.
Et bon, écoutez, voilà, on laisse aux auditeurs le prochain.
Vaste débat.
Voilà, vaste débat.
Tanguy Devienne. Et c'est intéressant, je trouve.
Oui, tout à fait.
Tanguy Devienne, à vous.
Alors, je voulais réagir. Alors, déjà, je partage totalement les remarques de M. Governatore. C'est vrai que c'est déjà un choix de société. Et effectivement, quand on pense à Pierre Rabhi et la sobriété heureuse, eh bien, on ne peut pas se dire que ça n'est pas pertinent à notre époque. Toujours est-il que je ne pensais absolument pas au solaire et encore moins à l'éolien géant lorsque je parlais de l'utilisation de l'inertie ou de l'utilisation d'énergie alternative. Je pensais naturellement au petit hydrolien et plus précisément en ce qui concerne l'inertie, je pensais à la géothermie ou plutôt l'aquathermie et pourquoi pas l'adiabatique. Enfin, l'adiabatique, ce n'est pas une utilisation de l'inertie, mais la géothermie qui est un terme générique, hein, ne nous faisons pas avoir. La géothermie ne définit pas simplement l'aérothermie, c'est-à-dire la clim réversible, loin s'en faut. Seulement, elle représente l'essentiel du marché, un marché qui est capté par les industriels, qui captent eux-mêmes les artisans, qui s'en servent comme ambassadeurs de leur placement produit. Enfin, ils s'en servent comme des placeurs de produits. Et finalement, on voit très peu de véritables aquathermies, très peu de véritables géothermie. Et pourtant, c'est celle-ci qui utilise véritablement l'inertie, parce qu'il faut savoir que à 2 mètres sous nos pieds, la Terre reste à une température constante. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel de s'en souvenir. Et c'est pour ça que je parlais de l'utilisation, non pas de l'énergie pour produire un besoin, pour satisfaire un besoin, par exemple la climatisation, donc rafraîchir des maisons, mais d'utiliser ce que l'on a sur place. Pour le moment, c'est anecdotique, c'est même un peu méprisé. C'est-à-dire qu'on ne vend pas grand-chose. Il suffit de parler des puits canadiens pour que la moitié de nos interlocuteurs se disent « mais de quoi parle-t-on » Et quand on parle de géothermie, on parle d'un terme générique qui malheureusement résume dans 99,7% des cas de l'aérothermie.
Alors, vous allez avoir une carte blanche pour exprimer vos idées les uns et les autres. Vous l'avez déjà fait en partie. Mais effectivement, c'est intéressant ce débat. Est-ce qu'on peut étendre finalement ces bonnes pratiques? Je pense à deux îles danoises, effectivement, qui vivent aujourd'hui en totale autonomie énergétique grâce à l'éolien, à la géothermie, avec des circuits parfois très imaginatifs. Un élevage de bovins qui en fait utilise le lait pour faire du chauffage au sol. Mais ça reste à toute petite échelle. La plus grosse de ces deux îles a 4000 habitants. C'est très bien, mais c'est dérisoire comparé aux populations humaines actuelles. On a le cas de l'île de Madère, on a l'Islande, mais effectivement, on reste sur des populations très réduites. Est-ce que c'est possible à grande échelle? est-ce que c'est possible avec les logiques de puissance actuelles? Alors, je vais d'abord m'adresser à Fabien Bouglet, puisque vous avez écrit ce livre, La guerre de l'énergie. J'imagine que vous, vous êtes en, vous placez en faux avec cette idée qu'on pourrait étendre finalement ces circuits vertueux à l'ensemble de l'espace humanisé. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui est dit dans votre livre et quelles sont vos convictions
profondes? C'est le fameux livre primé, c'est celui-là qui a été primé.
Oui, oui, ah oui, je précise effectivement qu'il a été primé à travers le prix Turgot.
La mention d'honneur du prix Turgot.
Voilà, la mention d'honneur du prix Turgot. Voilà. Et c'est tout récent, effectivement.
Ouais, bah, c'était il y a quelques jours, sélectionné parmi 200 livres du livre d'économie de l'année 2023.
Bravo.
Voilà, merci beaucoup. Preuve, pour autant, compte tenu du prestige du jury, que cette problématique touche des personnes de très haut niveau et donc c'est, même s'ils n'y adhèrent pas forcément, c'est en tout cas une prise en considération qui me touche. Tout d'abord, effectivement, moi je ne suis pas du tout décroissant et je suis tout à fait pour une forme de consommation mesurée. Le gâchis, le fait de faire attention, ça, moi, je partage cette idée-là. Mais il est clair que notre société, depuis le plan Messmer, je rappelle ce qu'est le plan Messmer, 1973, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la guerre du Kippour, les pays de l'OPEP se vengent en diminuant leur production de pétrole et en augmentant les prix sont multipliés par 6, par 10...
Et on hérite de l'heure d'hiver et de l'heure d'été.
L'économie s'effondre parce que le coût de production atteint des niveaux absolument extraordinaires. Et donc, Messmer, Premier ministre, en mars 1974, nous fêtons les 50 ans, lance le plan Messmer. C'est pour ça d'ailleurs que je pense au contraire que les réacteurs à eau pressurisée, contrairement à M. Governatori, sont une technologie d'avenir et se développent, en tout cas, de manière importante au niveau international, puisque nos réacteurs nucléaires, ceux qui assurent l'électricité des Français depuis 50 ans, sont les 58 réacteurs nucléaires construits à l'issue du plan Messmer.
Et ils sont tous à eau pressurisée, d'ailleurs.
Et ils sont tous à eau pressurisée, et ce sont tous les ancêtres des EPR, et de l'EPR 2 qui vont être construits, les 14 qui sont annoncés par Emmanuel Macron.
Si je suis bien, que pensez-vous des SMR?
Alors ça, les petits réacteurs modulaires, c'est encore autre chose, c'est des petits... Moi, je les avais défendus dans mon précédent livre « Nucléaire, les vérités cachées », en conclusion, c'est-à-dire Emmanuel Macron avait repris cette idée dans son plan d'investissement 2030. On a les gros EPR qui permettent la puissance importante dans notre société pour les électro-intensifs, et on a les petits réacteurs modulaires qui servent à faire de la chaleur pour les industries qui ont besoin de chaleur et qui permettent, au-delà du mix centralisé, d'avoir des industries qui vont avoir leur propre groupe électrogène nucléaire, en quelque sorte. Et c'est à ça que peuvent servir les petits réacteurs modulaires, sachant que l'avantage du petit réacteur modulaire, je francise, puisque c'est une technologie française, que cette technologie existe déjà dans nos réacteurs nucléaires de nos sous-marins nucléaires. D'ailleurs, en Bretagne, il y a bien des centrales nucléaires à Brest, puisque les Bretons ont contesté l'existence d'une centrale, mais il y a des réacteurs, des petits réacteurs modulaires à Brest. Il suffirait qu'on mette un fil et puis on approvisionnerait la Bretagne. Et donc, de ce fait, moi, depuis 50 ans, le développement du nucléaire en France a permis cette abondance, a permis la recherche, a permis le Concorde, a permis tout un ensemble d'innovations, l'informatique, le développement... Et donc, le progrès, dans une dimension de progrès social, la pénurie d'énergie et d'électricité est très mauvaise.
Excusez-moi, j'ai du mal à voir le Concorde comme un progrès social.
Non, mais l'innovation est source de progrès pour la société. Alors, on peut considérer que le Concorde n'est pas un progrès social, mais la recherche, le fait d'avoir cette abondance d'énergie et d'électricité permet... permet d'avoir une société beaucoup plus heureuse. D'ailleurs, regardez les années Pompidou.
On a cité des technologies qui sont innovatrices également. Enfin, ça paraît beaucoup plus trivial, mais l'idée qu'une ferme puisse fonctionner en autonomie totale et
mais ne pas avoir besoin d'être liée. L'un n'empêche pas l'autre.
Hein. Donc là, votre propos ne va en rien contre.
Pas du tout, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que moi, je suis pour la liberté. Mais. Encore, si on distingue l'autoconsommation, la liberté individuelle de dire « moi, je ne veux pas être dans le réseau électrique global parce que je veux faire ma géothermie, parce que je veux faire mon panneau solaire, si possible, construit en France. » Non, mais ça, c'est
il n'y a pas de relation de cause à effet. Ce que je veux dire avec la géothermie, on peut très bien avoir un système aquathermique chez soi sans être déconnecté du réseau. On a même besoin.
On a besoin du réseau, bien sûr.
On a besoin du réseau. C'est simplement une source.
Vous allez atténuer.
Ah, bah, considérablement. Voilà, on peut avoir ce que l'on appelle un coefficient de performance, c'est-à-dire qu'un kilowatt heure consommée va restituer 3, 4, 5 kilowatts de chaleur. Donc là, c'est quand même très intéressant. Donc, en fait, je vous provoquais un peu avec le Concorde. C'est parce que ça me faisait penser, en tout cas, ça rappelait ce que monsieur Gouvernet, nous disait, c'était justement la course à la vitesse. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'étendard de la performance, c'est effectivement toujours plus vite. Je pense par exemple au réseau ferré. Alors ça nous éloigne un petit peu de notre sujet, mais c'est vrai que...
C'est lié.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas directement l'énergie. Mais c'est-à-dire que l'utilisation d'une énergie, ou en tout cas, lorsque l'on se focalise sur une performance extrêmement pointue, comme le Concorde, bon, qui n'a pas fonctionné, mais on peut considérer que le TGV, c'est le Concorde du rail qui a fonctionné, en tout cas qui a été porté jusqu'à devenir une réalité, et qui aujourd'hui, finalement, a confisqué, on peut le considérer de cette manière-là, a confisqué beaucoup de nos concitoyens de réseaux ferrés. Et finalement, je crois beaucoup plus au déploiement de transport lent plutôt que la focalisation sur un outil extrêmement rapide qui finalement n'est accessible qu'aux privilégiés et ce qui donne la possibilité d'habiter à Aix-en-Provence et de travailler à Paris. Mais que veut-on en réalité? Si on veut vraiment satisfaire l'intérêt général, ou en tout cas travailler pour la communauté et le plus grand nombre, c'est évidemment privilégier le réseau et non pas privilégier uniquement la vitesse. J'en veux pour preuve, comme indice, ce que Ivan Illich écrit dans Énergie et équité, qui n'est pas un recueil qui est sorti de cette année, puisqu'il date du début des années 70, mais qui reste extrêmement pertinent en la matière. Donc, Énergie et équité.
Je voudrais
prenez la parole, et vous terminez sur la guerre de l'énergie.
Oui, parce que, en fait... Je voudrais bien qu'on ait à l'esprit une chose. C'est que, oui, pour l'hydroélectricité, qui la combat en France, l'hydroélectricité? C'est les réseaux allemands.
Oui,
ce sont les ONG écologistes allemandes.
Et la
les
mêmes qui
combattent, et la même oui. qui combattent. Oui, mais c'est les oui. mêmes. Les mêmes qui combattent le nucléaire français. Puisque plus d'hydroélectricité et plus de nucléaire, c'est Greenpeace, c'est WWF, c'est les mêmes clics. Ce que moi j'appelle dans mon bouquin les mercenaires énergétiques. D'ailleurs, depuis la sortie de mon bouquin, j'ai pas eu de procès. D'ailleurs, je les attends. Parce que
ce sera
intéressant. Ce sera très intéressant. Je voudrais dire une chose. C'est que quand on parle d'énergie, on oublie une chose fondamentale. C'est la dimension géopolitique de l'énergie. Il n'y a pas un pays qui nous attend dans la compétition mondiale de l'énergie. Je veux dire, si nous, on dit, on fait une pause, on fait de la sobriété, on arrête tout. Mais les Russes, ils vont continuer. Les États-Unis vont continuer. L'Inde, qui vient d'envisager la construction d'un réacteur à neutrons rapides de quatrième génération, ils vont continuer. On sera laissé sur le chemin. Et c'est ça juste que je veux expliquer. C'est l'apport de mon livre « Guerre de l'énergie » que de dire « Attention les gars, on peut prôner la sobriété. On peut dire qu'il faut faire attention de la consommation. » Mais on ne nous attendra pas. Sera laissé pour compte. Et c'est pour ça que moi, je prône une grande politique nucléaire européenne. Et c'est pour ça que je prône un développement du nucléaire. Parce que c'est ce qu'on sait faire. Et c'est ce qui permet d'assurer la souveraineté française et la souveraineté européenne. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
C'est très clair. À vous, Jean-Marc Governatori, de répondre. Vous êtes, je le rappelle, candidat à l'occasion de ces élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Qu'est-ce que vous répondez à Fabien Bouglé, imaginons que vous soyez cas d'un débat
politique. Et co-président de l'écologie au centre, et je trouve que les remarques de M. De Vienne, comme celles de M. Bouglet, sont vraiment très intéressantes. Mais il est clair que nous avons à évoluer dans notre rapport au temps. Effectivement, c'est capital. Nous avons à évoluer dans notre rapport au travail. Nous avons à évoluer dans notre rapport à l'argent. Nous avons à évoluer dans notre rapport à l'animal. Et ça, c'est des problématiques de base pour bâtir une nouvelle société. Parce que c'est intéressant quand on dit « oui, depuis 50 ans, c'est bien, il y a eu la recherche, il y a eu le concours, etc. » Mais oui, d'accord, faisons le bilan de là où on en est depuis 50 ans. On en est à plus de 600 000 décès annuels dans notre pays, dont au moins 90% sont prématurés. On en est à 3 000 milliards de dettes et une obligation d'emprunt quotidien de plus de 700 millions d'euros. Donc ça, c'est le résultat de la recherche et tout. Hein. C'est un fait. Donc, pour faire une tarte aux fraises, il ne faut pas que des fraises. Donc, il faut des fraises, de la farine, de l'eau, etc. La recherche et les progrès technologiques, entre guillemets, contribuent à ce résultat final. Parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que politique, en tant qu'élu de la République, c'est où en est le bien commun. Et force est de constater, quand on analyse l'État de notre pays, de notre Europe et de notre monde, après tant de progrès, après tant de recherches, ben franchement, c'était pas la bonne recette, quoi. Hein. Quand on voit la désespérance, les déprimes, les consommations d'alcool, de drogues, d'antidépresseurs, et pas qu'en France. Alors c'est vrai qu'en France, on est des champions, mais quand vous grattez partout dans le monde, et j'ai sorti mon 16e livre hier, et franchement, j'ai fait un examen attentif de ce qui se passe dans le monde, ben c'est vrai que la France est mal placée, mais de partout, il y a des problèmes. Parce que de partout, c'est effectivement cette quête de recherche et de faux progrès, et de vitesse, et de technologie, etc. Ce que j'ai exprimé tout à l'heure.
Mais est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une courbe où vous auriez un lien entre l'accès facile à l'énergie et le mal-être de...
Mais justement, on n'a pas d'accès facile à l'énergie, et on ne peut pas avoir accès facile à l'énergie, parce que même le nucléaire que nous entendons, hein, donc on vit dans le monde réel, nous, écologie centriste, on n'est pas dans le monde fictif d'Europe Écologie qui veut sortir de l'OTAN et qui veut arrêter le nucléaire. Mais le nucléaire, il veut du zinc et du cuivre. Et la société digitale que nous voulons bâtir veut du zinc et du cuivre. Et du zinc et du cuivre, il n'y a plus y en avoir. Parce qu'incroyablement, les États-Unis et les pays européens mènent de front des actions incroyables pour, d'une part, la voiture électrique, qui veut du zinc, du cuivre et des métaux rares. Pareil, quand on va faire des éoliennes, il faut du zinc, du cuivre et des métaux rares. Pareil pour les EPR, donc, et bien sûr pour le solaire. Donc, ce type d'éléments pris de front pille la planète. Et donc, quand vous n'aurez plus... On parle tout le temps du charbon. Du charbon, il y en a pour longtemps, hein, cela dit. Mais bon, du gaz et du pétrole, il y en a pour quelques décennies. De l'uranium, il y en a pour quelques décennies. Mais la problématique, c'est ces deux matériaux dont on ne parle jamais, monsieur. C'est le zinc et le cuivre. Si vous n'avez pas de zinc et de cuivre, vous ne pouvez plus réparer les centrales nucléaires. Donc, il est incontournable que, un, on développe l'éducation à l'environnement, et que, deux, l'économie circulaire devienne l'économie reine.
Très bien.
Oui, je crois.
Fabien Bouglet, rapidement, avant de laisser.
Juste un point. On ne peut pas comparer le besoin en cuivre, en terres rares, des aérogénérateurs industriels, c'est-à-dire les éoliennes, et le besoin des centrales nucléaires. Je rappelle juste, pour chiffrer, pour une centrale nucléaire installée sur 1 km², il faut 1000 éoliennes en mer.
Ou sur terre ?
Non, en mer, parce que c'est des 8 mégawatts. Et dans chaque éolienne, il faut une tonne de terres rares. Donc, en plus, la particularité, c'est que les éoliennes étant dispersées sur tout le territoire, il faut changer les réseaux électriques, déployer un réseau électrique qui nécessite un nombre de cuivres absolument gigantesque, et ça coûte 100 milliards à 200 milliards d'euros rien que pour les réseaux. Donc, je voudrais juste, si on peut juste préciser ce point, le besoin en cuivre et en matériaux, d'ailleurs il y a eu un article récent, est epsilonesque dans le domaine nucléaire. Epsilonesque. Le besoin en terres rares.
En revanche.
Alors, je ne suis pas d'accord parce que.
Alors, on parle d'un horizon, il me semble, pour l'uranium.
Par terawatt-heure produit.
Pour l'extraction de l'uranium, on parle d'un horizon, d'un pic de production assez proche,
oui,
hein, 2040,
oui,
il me semble.
Si on n'avait pas abandonné Superphénix lors de la gauche plurielle avec Lionel Jospin et Dominique Voynet, on aurait un surgénérateur utilisateur des déchets nucléaire, c'est-à-dire de l'uranium appauvri plus du plutonium, pour lequel nous avons 2 à 3 000 ans de réserve sur notre sol. Et dans cette course à l'énergie, les Russes ne nous ont pas attendus, ils ont construit 2 réacteurs à neutrons rapides,
Et les États-Unis sont en train d'en construire un avec Bill Gates, et l'Inde vient de l'annoncer. Donc, on a sur notre sol 300 000 tonnes d'uranium appauvri cumulé avec le plutonium de nos réacteurs à eau pressurisée déjà existants. On a quasiment une électricité infinie sur notre sol.
En l'état, ce sont des réacteurs à eau pressurisée.
Donc, en l'état, ce sont des réacteurs voilà, pressurisés.
Voilà, qui ont 50 à 60 ans.
J'en profite justement parce qu'on a un autre auditeur qui nous pose une question là, très précise. Les réacteurs EPR en construction actuellement ont du mal à être mis en route. Mm-hmm. Pourquoi justement ne construit-on plus de réacteurs à eau pressurisée comme il y a 50
ans? Et le coût a doublé puisque maintenant on en est à 100 milliards pour la prévision de cette construction d'EPR. Et on a des doutes sur notre capacité à les faire marcher.
La question de l'auditeur déjà.
Alors ça, la question de l'auditeur,
très
ça,
simplement,
tout
la
simplement parce que les Russes ont continué, c'est pour ça que Rosatom est le premier fabricant de centrales nucléaires au monde, c'est que les Russes, ils ont continué à construire des réacteurs nucléaires en augmentant progressivement la qualité de ces réacteurs et les modernisant, comme une R5. Vous vous rappelez de la R5, eh bien, il y avait différents modèles. Deux ans après, il y avait un nouveau modèle et il progressait.
Oui, mais la plupart des réacteurs russes sont encore à eau.
Et ils sont de moins en moins fiables.
Tandis que nous, en fait, nous avons, en 1997, arrêté la construction de tout réacteur à eau pressurisée. On a fait ce qu'on appelle un saut technologique. Et entre 1997 et 2024, il y a combien ? Il y a 27 ans. Donc, en fait, en plus, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Flamanville, c'est un réacteur à eau pressurisée qui a été produit avec Siemens. Siemens, c'était les Allemands qui arrêtaient le nucléaire. Et donc, ils nous ont mis des pots de banane dans la construction, ce qui fait que ça a ralenti. Et ça s'associe à un second sujet, le problème de la sûreté nucléaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu une loi de réforme de la sûreté nucléaire avec l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les systèmes de sûreté nucléaire ont fait que ça a fait exploser les prix. Pourquoi ? Parce que ces officines de sûreté nucléaire, certaines ont été infiltrées par les antinucléaires. Et donc, bien sûr,
C'est votre interprétation.
C'est sourcé. Négawatt est dans une commission de sûreté nucléaire. Négawatt siège. Il y a des officines.
Et ils sont minoritaires.
Oui, mais il y a des officines antinucléaires dans les commissions de sûreté nucléaire. Non, mais il ne faut pas, faire du déni.
C'est vrai, mais ils sont minoritaires.
Mais ils ont une forte influence.
En Allemagne, a été fortement influencé par certains.
Et donc, Flamanville.
Parfois financé par des pays
étrangers. C'est d'une part un réacteur à eau pressurisée de nouvelles catégories qui a mis énormément de temps parce que c'était un numéro zéro, comme dans l'industrie, dès que vous faites un numéro zéro. Et ensuite, le souci, c'est qu'on a commencé avec les Allemands, ça n'a pas été... Et enfin, le problème, c'est qu'on a fait 1650 mégawatts en puissance alors que les précédents faisaient 1300. Or, les réacteurs à eau pressurisée, plus vous augmentez la puissance, plus les ennuis deviennent exponentiels. C'est-à-dire qu'il valait mieux rester à 1300 mégawatts, c'est les derniers que nous avons construits, parce qu'en fait, on a augmenté les ennuis. C'est ça. On ne peut plus aller vers un 2000 mégawatts, parce qu'en fait, là, les ennuis vont être multipliés par 4. Et en fait, c'est le sujet au cœur des problématiques. Et en fait, on a acquis une compétence.
Alors, Fabien Bouglet...
Et donc, on pourra construire les 14 sans
problème. Non, mais c'est très intéressant, parce que ça fait penser au projet ITER, qui est justement d'une ambition absolument délirante, et qui finalement, quand vous parliez de l'augmentation des problèmes, le condamne. Mais le condamne même, je dirais, à moyen terme. Parce qu'on est dans une telle complexité que voilà, on ne maîtrise plus du tout.
Alors, Tanguy de Vienne, je vais vous repasser la parole pour vous exprimer également votre manifeste, votre profession de foi énergétique, j'allais dire. Mais avant cela, il est l'heure pour Radio Courtoisie du petit Bobino. Je vous invite, bien sûr, chers auditeurs, à contribuer au succès de notre radio.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous retrouve donc sur cette émission Les Pâturages du Ciel, consacrée ce soir à l'énergie, et elle est intense cette émission, elle est assez technique, j'espère que ceux qui nous écoutent n'ont pas lâché, je ne pense pas, parce qu'elle est aussi très dynamique grâce à des invités qui connaissent bien leur sujet et qui savent partager leur passion. On vient d'écouter François Bouglet, expert en politique énergétique.
Pas bien.
pas Fabien, pardon, Fabien, merci Jean-Marc, Fabien Bouglet, qui donc vient de publier « Guerre de l'énergie ». Il nous explique qu'il faut avoir une vision réaliste, il n'a rien contre l'autoconsommation, mais il faut tout de même réfléchir en termes de puissance dans un monde où la concurrence est accrue et où on vit littéralement une montée des périls.
Dans son modèle de société.
Jean-Marc Governatorian, suite à parler de l'importance de la co-responsabilité, l'idée d'éduquer bien sûr toute une jeunesse à travers le monde à l'écologie, les sensibiliser pour que nous allions vers une économie et une écologie, puisque les deux ont la même racine et finalement fonctionnent de pair, circulaire, où il y ait le moins de gâchis possible. Et maintenant, eh bien, c'est à Tanguy de Vienne d'exprimer sa position. Tanguy de Vienne, c'est à vous.
Eh bien, je crois qu'autour de cette table, nous sommes tous d'accord pour défendre le nucléaire, quelle que soit en fait son échelle, sachant qu'un réacteur nucléaire, on nous l'a rappelé autour de cette table, c'est autour de 1000 mégawatts. Et finalement, ça rend mon manifeste, je dirais, un petit peu plus réaliste quand on parle de l'hydraulique en France. L'hydraulique en France souffre d'une chose, c'est qu'on ne le voit qu'à travers le gigantisme. Or, il y a des alternatives à des barrages de plusieurs mégawatts. Il y en a certains qui font 400 mégawatts. Le plus gros en France, pour le savoir, c'est celui de Grand Maison qui est d'une puissance de 1800 mégawatts. Mmh. Sachant que, pour comparaison, le barrage des Trois Gorges en Chine fait 22 500 mégawatts. Et figurez-vous que le barrage des Trois Gorges représente en fait l'équivalent de la puissance hydraulique française.
De l'ensemble de la puissance hydraulique.
Exactement.
En sachant que la France est parmi les mieux placés pays européens en matière hydraulique. Il me semble qu'on est à 12% environ
du mix électrique.
Exactement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on voit la puissance hydraulique française, donc d'environ 22 500, 26 000 mégawatts environ, qui représente 600 barrages, finalement, on prend quelle est la part des PHE. Alors les PHE, ce sont les petits barrages. Il faut savoir donc des barrages inférieurs à une production de 10 MW. Donc ils représentent, eux, que 10%, c'est-à-dire 2200 MW de puissance pour 2700 installations. Et là, j'aimerais justement m'en référer à Charles Dupin, mathématicien et ingénieur du 19e siècle, né en 1784, mort en 1873, et qui a étudié les forces productrices de la France pour les comparer à l'époque avec celles de l'Angleterre. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que les moulins à eau, qui étaient mais ultra nombreux en 1825, puisqu'il en recensait 66 000, rien que de moulins.
66 000 en 1825.
Mais ce n'est pas fini. En 1840, Nadeau de Buffon en recensait 80 000. Aujourd'hui, combien en reste-t-il ? 16 000. Mmh. 16 000, et il n'y a qu'une toute petite part de ces 16 000 qui sont équipées de génératrices. Mmh. Or, les génératrices, c'est presque de la low-tech. Là encore, quelque chose qui s'oppose à la high-tech, qui est toujours revendiquée comme étant l'avenir du monde. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Je crois que la high-tech doit cohabiter avec la low-tech. J'invite d'ailleurs tout le monde à s'intéresser aux travaux de Corentin de Châtelperron, qui est un véritable petit prince dans notre société, qui ne parle évidemment que de technologie. Et lui est à la fois ingénieur, réaliste et véritablement, mais il redonne espoir. Quand on parlait tout à l'heure du bonheur, eh bien je crois qu'effectivement, le bonheur n'est pas forcément dans l'abondance, même si ça peut y contribuer, à la limite, à force de se shooter à l'énergie abondante, on finit par être complètement drogué. Donc, pour en revenir à ces 66 000 moulins, je crois qu'il y a un potentiel de ce côté-là qui est totalement négligé et qui, là encore, est attaqué par des écolos qui vous parlent de... alors attendez, quel était le terme ? C'était... en tout cas, ça avait pour effet, c'était la continuité écologique. Et la continuité écologique, finalement, sert de prétexte pour détruire les seuils des barrages de beaucoup de moulins, alors qu'en réalité, mais c'est un véritable potentiel. On voit bien aussi que récemment, un barrage.
Alors, je vous interromps. Est-ce qu'il y aurait consensus autour de cette table au sujet de ces petits barrages?
Ah bien sûr. Ouais.
Bon,
bien sûr.
Effectivement, pour le vivre près de chez moi en Touraine, effectivement, les barrages ont sauté les uns après les autres pour des raisons soi-disant écologiques. Personne n'a compris, ça a saccagé les bords de rivière.
L'acteur clé, c'est France Nature Environnement. Mais France Nature Environnement, l'officine mercenaire énergétique, est financée par Engie. Engie, c'est le gaz.
Ah, voilà qui est intéressant.
Non, mais il faut comprendre les choses. Oui, c'est-à-dire que plus de barrages, c'est moins d'éoliennes et moins de gaz en support.
Voilà.
Non, mais donc les acteurs anti-nucléaires et les acteurs anti-barrages hydroélectriques sont les mêmes, strictement les mêmes. Puisque, d'abord, ça place la France dans une situation d'hégémonie d'électricité décarbonée. Parce qu'il faut quand même se souvenir que et l'hydroélectricité et le nucléaire sont décarbonés. Et ça lui donne une puissance forte vis-à-vis de l'Allemagne qui voulait imposer ses éoliennes couplées au gaz russe lorsque Nord Stream était en fonctionnement. Et maintenant, c'est le gaz américain qui est encore plus polluant puisque c'est du gaz de schiste. Donc, en fait, il faut bien comprendre que derrière les officines Greenpeace, WWF, Negawatt, France Nature Environnement et les réseaux de les Amis de la Terre, ce sont tous des structures payées et financées par les énergies fossiles. Par les énergies fossiles.
Vous êtes d'accord, Jean-Marc Governatori? On va rendre ensuite la parole à Tanguy de Vienne, mais sur ce que vient de dire Fabien Bouglet et les liens troubles de certaines ONG avec la grosse industrie pétrolière et gazière.
Je sais combien les études de M. Bouglet sont sérieuses. Cela dit, pour une accusation de cette nature, si un magistrat me le dit, j'ai aucun doute. Donc je préfère que ce soit une accusation en justice avec une enquête officielle pour dire que...
En fait, c'est très simple. Alors là, vous allez sur le site de la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller, c'est la fondation issue des pétroliers Rockefeller. Et vous tapez sur le moteur de recherche les ONG financées. Vous allez taper WWF. Vous allez taper les Amis de la Terre en anglais, et puis vous allez taper Greenpeace. Et vous retrouvez les financements qui ont été opérés par les fondations Rockefeller.
Voilà, mais il faut voir la proportion des financements.
Voilà. Vous tapez WWF et Nord Stream. Et là, vous avez un communiqué de presse de Gazprom qui a fait Nord Stream, un communiqué de presse de 2011 qui explique que Gazprom a financé à hauteur de 10 millions d'euros une fondation de la protection de la nature de la mer Baltique, dont le président sera le président de WWF. Et après, vous comprenez pourquoi WWF. Le patron de WWF en France était Monsieur Canfin, Pascal Canfin. Et vous comprenez pourquoi Pascal Canfin, avant le sabotage de Nord Stream, prenait en plus du nucléaire de transition, le gaz de transition. C'est formidable, puisque le gaz émet 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit. On a un peu de mal à comprendre en quoi le gaz serait de transition, etc. Parce que c'est un amoureux du gaz. Tous ces ONG adorent le gaz, puisque le gaz, c'est ce qui vient en backup des énergies intermittentes. Plus d'éoliennes, c'est plus de gaz. D'ailleurs, l'Allemagne, le gouvernement allemand vient de faire passer une loi pour dire... Compte tenu de l'intermittence des éoliennes et des panneaux solaires, nous avons besoin de 20 centrales à gaz supplémentaires. Voilà, c'est QFD.
Alors, il faut toujours entendre l'autre son de cloche, pour être honnête. Il faut toujours entendre, donc votre version est certainement pertinente, mais il faudrait entendre ce qu'en dit VVF et toutes les ONG que vous accusez. Donc on ne peut pas porter un jugement de
côté. C'est dans « Nucléaire, les vérités cachées » qui est sorti il y a 2 ans. Et c'est dans mon bouquin « Guerre de l'énergie » avec des informations supplémentaires sur lesquelles je n'ai jamais eu de contestation.
On revient à Tanguy de Vienne.
J'irai dans le sens de Fabien Bouglet sur cette collusion, puisqu'on sait que ceux qui aiment beaucoup les éoliennes, ce sont justement les gaziers.
Eh oui.
c'est très bien expliqué d'ailleurs dans le livre de Jean-Marc Jancovici. Qui est Le Monde sans fin. Je trouve que c'est très bien expliqué. L'avantage, quand on parlait d'éducation, et là je vous rejoins totalement, eh bien on a besoin d'être éduqué aussi par des supports qui sont amusants, qui sont ludiques, qui sont faciles à intégrer. Mmh. Et c'est vrai que là, je trouve que sais qu'il a eu beaucoup de succès, tant mieux d'ailleurs.
Je plus sois, je dirais simplement, parce que je pense que Jean-Marc Jancovici fait de l'excellent travail, mais je ne sais pas pourquoi il explique qu'il ne veut pas s'adresser à tous les gens qui sont plus à droite que je ne sais qui d'ailleurs, mais à partir d'une certaine droite,
oui.
Il a décidé de ne pas leur adresser la parole. Alors je ne sais pas comment il va faire, puisqu'avec les sondages actuels en vue des européennes, tout de même, Monsieur Governatori est candidat, mais il y a un autre candidat, Jordan Bardella, qui déjà touche les 30%. Ça veut dire qu'il refuse de s'adresser à près de la moitié de la population si on ajoute.
C'est une faute.
Reconquête. C'est clair. Une vraie faute. Et ça, c'est une grande incompréhension. C'est pas le thème de l'émission, mais de voir tant de gens qui se disent attachés à l'écologie, parce qu'il faut éveiller les consciences, et qui refusent, je pense à Aurélien Barraud, qui a la même position,
mais
qui
Hugo
refuse
Clément,
de s'adresser.
Hugo Clément qui avait fait
justement
Hugo, ce Hugo geste
Clément
fort.
Est le seul, et le seul, et je l'applaudis, et vraiment, c'était une excellente chose. Vraiment, je trouve indécent de parler de prise de conscience mondiale et d'éducation des enfants, et de refuser de s'adresser.
Ah, il faut parler à tous les politiques, on est bien d'accord.
C'est tout à fait vrai, voilà. Et c'est vrai que je pensais justement à. J'ai oublié son prénom, mais Cohen, qui a beaucoup influencé Coralie Delhomme, qui était une très bonne journaliste et qui dénonçait justement le mythe du
souverainiste
franco-allemand, et qui en 2011 se sentait forcé de dire « mais je suis dans l'analyse » et on ne cessait de lui demander « mais vous faites le jeu du Front National, etc. » Enfin, c'est absolument c'est épuisant d'avoir affaire à... enfin, d'être toujours obligé de se justifier ou en tout cas de se retenir simplement pour être audible. Et c'est vrai qu'en matière d'écologie, il y a un petit peu... il en va un petit peu de la même, du même processus. C'est très bien parce que j'ai pu recenser aussi un exemple pour en revenir sur les barrages. Eh bien, figurez-vous que la destruction ou même des barrages traditionnels, ceux qui devraient faire consensus, eh bien, sont encore détruits. Je prends pour exemple celui de Pont-Rolland qui ne fait que 2,7 mégawatts de puissance. Donc 2,7 mégawatts, on n'est quand même pas dans la micro, dans la micro-production. Eh bien, finalement, il était à vendre, il n'a pas trouvé preneur. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais ça m'a quand même frappé de me dire que en 2018-2019, on réussissait encore à détruire un barrage. Alors aussi, il faut rappeler que la plupart des barrages sont historiques. Enfin, je veux dire, la plupart des moulins qui dit moulin dit la plupart du temps seuil, et donc leur construction s'est totalement intégrée dans le paysage, mais pas sur le plan simplement esthétique. Il s'est aussi intégré d'une manière naturelle. Et donc aujourd'hui, de les détruire sous prétexte d'écologie, c'est simplement contraire à l'écologie. Donc moi qui suis absolument convaincu par l'écologie, par la nécessité d'être écologique, je ne comprends pas comment on peut avoir une idéologie qui aille exactement à rebours du bon sens paysan, ou alors en tout cas du bon sens de l'eau.
Très bien. On va passer à la deuxième thématique. On a défloré énormément de sujets, c'est très bien, parce que tout ça s'est fait très naturellement. C'est tout de même l'impact de la guerre en Ukraine sur notre politique énergétique. Il y a des événements qui vont encore nous dépasser. On est en pleine guerre. La centrale de Zaporijja est régulièrement sous le feu russe ou ukrainien. Depuis le début de la guerre, il y a eu plusieurs échanges. Un immense barrage, d'ailleurs, sur le Dniepr a été touché il y a quelques jours. J'aimerais avoir votre avis, vos craintes, vos espoirs face à ces menaces de plus en plus fortes sur l'approvisionnement énergétique et tout ce que cela aurait de conséquences. Peut-être Jean-Marc Governatori pour commencer.
Le maître mot d'un gouvernant éclairé, c'est l'autonomie. Et d'ailleurs, tout conflit mondial, en Ukraine ou ailleurs, d'ailleurs tout à l'heure on parlait de la guerre de Kippour qui a impliqué ce qui s'est passé après, tout conflit mondial implique une problématique d'approvisionnement énergétique et de prix et par conséquent de pouvoir d'achat, si on n'est pas autonome.
Donc, l'opération Barbarossa, d'ailleurs lancée par Hitler contre Staline, qui était son allié jusque-là, en juin 1941, avait pour visée presque essentielle de réussir à rallier les puits de pétrole au bord de la mémoire. Exactement.
C'est pourquoi, pour nous, le maître mot, c'est autonomie. Et quand nous regardons l'Union européenne, nous regardons les 242 régions et nous prenons une politique qui amène chacune des 242 régions à être autonome des points de vue alimentaires et énergétiques, en tout cas d'y tendre beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et par exemple, parfois il y a des mesures très simples qui font qu'on peut tendre à l'autonomie. Quand tout à l'heure on parlait de climatisation, si simplement dans une région chaude comme chez moi sur la Côte d'Azur, vous mettez des films sur les vitres, effectivement pour produire le film il faut du pétrole, Donc effectivement, moi je suis pas pour le zéro pétrole, hein, je suis pour l'utilisation de beaucoup moins de pétrole. Et je ne suis pas pour le zéro chimie de synthèse, parce que ce n'est pas réaliste, mais je pense qu'on peut utiliser beaucoup moins de chimie de synthèse. Mais par exemple, dans un appartement ou dans une maison, vous mettez un film adéquat donc sur les vitres, vous avez plus besoin ou beaucoup moins besoin de clim. Et des fois, il y a des mesures simples et beaucoup moins coûteuses écologiquement et beaucoup moins coûteuses financièrement et beaucoup moins coûteuses énergétiquement qui feront que vous aurez moins de dépendance avec une guerre qui va arriver ici ou une guerre qui va arriver là. Effectivement, le conflit en Ukraine a impliqué ce que nous savons tous. Mais c'est vrai que l'obsession doit être l'autonomie. Mais l'autonomie, ça passe par ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc l'éducation à l'environnement, l'économie circulaire et l'habitude d'être heureux avec moins. Mais on peut faire le choix d'une société où pour être heureux, il faut plus. Et moi, je pense que c'est incompatible avec la réalité terrestre et que par conséquent, on peut produire une culture du bonheur avec moins. Et cette culture du bonheur avec moins fera qu'on sera moins touché lorsqu'il y aura un conflit ici ou là, parce que malheureusement, la planète est ainsi faite aujourd'hui. La plupart des régimes sont des régimes dictatoriaux, hein, donc la démocratie se fait rare sur la planète. Par conséquent, la dictature est productrice de guerre. Et par conséquent, il y en aura d'autres des conflits ukrainiens, il y en aura d'autres des conflits moyen-orientaux ici ou là sur la planète. Et il y a la problématique de l'approvisionnement, comme vous l'exprimiez avec le gaz ou le pétrole sur ces pays-là, mais il peut y avoir demain la problématique de l'approvisionnement en cuivre, en zinc et en métaux rares.
Mais regardez, au moment du Covid, une baisse générale de la consommation énergétique. C'est parce que les gens n'avaient pas le choix. Et finalement, est-ce qu'on peut espérer que les gens changent de mode de consommation, soient plus sobres, plus raisonnables, sans que les prix augmentent massivement ou sans qu'on les y force, en fait, par une forme
de... Par définition, un être humain, il évolue soit par la souffrance et par une réalité à laquelle il doit faire face, soit il évolue par la conscience. Nous, politiques éclairées, nous, écologie centriste, nous souhaiterions qu'à partir d'informations que nous donnerions sur les résultats de la politique passée en matière énergétique et tout ce que vous voulez, force est de constater que nous devons modifier le logiciel économique, nous devons modifier le logiciel sociétal. Mais pour qu'il ne soit pas imposé par la nature, il faut cesser la guerre contre la nature parce que vaincre la nature, c'est se perdre. Et par conséquent, il est urgent de cultiver une autre culture de vie et nous nous y attachons.
Fabien Bouclet.
La guerre en Ukraine, c'est un sujet très vaste puisque c'est un élément très important de mon livre. Alors, sur la guerre en Ukraine, d'abord, il faut expliquer la nature stratégique de l'Ukraine en Europe. Et c'est la raison pour laquelle l'Ukraine a été manipulée par la CIA et par les réseaux Soros avec la révolution orange de 2004 et la révolution de Maïdan de 2014. L'Ukraine est le pays historique du passage du gaz entre la Russie et l'Europe, avec deux gazoducs historiques, Soyouz, et Brotherhood. Brotherhood qui veut dire fraternité. Pourquoi ? Parce que l'Union soviétique donnait du gaz à prix cassé au pays sous la sphère d'influence du communisme. Et donc, les pays dans la sphère du pacte de Varsovie bénéficiaient d'un gaz pas cher dans les limites du gazoduc Brotherhood. Évidemment, les États-Unis ont compris que ce pays était clé. Parce qu'en contrôlant ce pays, en mettant un président qui n'était pas un président pro-russe, il contrôlait géopolitiquement l'Europe. Et de ce fait, la Russie a vu d'un mauvais œil et a commencé à rentrer en conflit avec l'Ukraine, à qui la Russie a dit « si vous ne voulez plus être dans la sphère d'influence de la Russie, vous allez payer votre gaz 4 fois, 5 fois plus cher ». Et a commencé les conflits entre le pouvoir russe et le pouvoir ukrainien sur le prix du gaz et le passage du gaz. Et là, la Russie a commencé à fermer le robinet. Et la seule solution que pouvait avoir le Poutine, c'était de faire le pacte germano-soviétique des temps modernes et faire le pacte Poutine-Schröder. Schröder avait besoin de compléments...
Je l'appelle l'ancien chancelier allemand, qui a été chancelier jusqu'en 2004.
2004-2005, qui avait besoin pour compléter son Energiewende 2, c'est-à-dire son idéologie de la transition énergétique, pour coupler ses éoliennes, d'avoir un gaz sûr, garanti, directement, et pas avec les aléas du passage par l'Ukraine. Et donc, a été construit Nord Stream 1, premier gazoduc Nord Stream 1, 55 milliards de mètres cubes. Pour rappel, ce qui passe par Soyouz et Brotherhood, c'est environ 60 milliards de mètres cubes. Et évidemment, les États-Unis, donc le premier Nord Stream, Nord Stream 1, est construit vers 2011, opérationnel, et Nord Stream 2 est opérationnel en décembre 2021, deux mois avant le début de la guerre. Donc vous voyez déjà que les États-Unis ont un très gros problème avec Nord Stream 2, puisque Nord Stream 2 permet d'alimenter en Europe 110 milliards de mètres cubes sans avoir à passer par l'Ukraine, qui est sous contrôle américain.
Et selon vous, qui les a sabotés?
De toute façon, je dirais Biden, en février 2022, reçoit Olaf Scholz, le chancelier Olaf Scholz, et il dit, si Poutine envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Documenté, hein, c'est une vidéo. Et le journaliste lui dit, comment vous comptez faire? Et Biden lui répond, je peux vous assurer que nous sommes en mesure de le faire. Bon, alors après qu'il y ait des faux drapeaux, une équipe ukrainienne, c'est à qui profite
le crime ? Par ailleurs, là, aujourd'hui, et c'est tout récent d'ailleurs, mais il y a un consensus total sur le fait que, on sait, et d'ailleurs c'est parfaitement logique dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, que les Ukrainiens ont commandité le...
Voilà, parce qu'eux, ils avaient besoin, les Nord Stream 1 et 2 étaient une voie de contournement de leur pouvoir en Europe.
Bien sûr.
Et comme l'Europe, rappelons cette chose importante, c'est pour ça que la guerre en Ukraine concerne la guerre en Europe, et l'Europe est concernée, c'est que, à la différence des États-Unis qui sont autonomes énergétiquement et la Russie qui est autonome énergétiquement, donc pas besoin d'importation, et les États-Unis c'est depuis 2016, hein, grâce au gaz de schiste, l'Europe, selon les chiffres d'Eurostat, dépend de 55% de ses importations. 45% pour la France, 65% pour l'Allemagne, 70% pour l'Italie, la Grèce et le Portugal et l'Espagne.
Vous parlez du gaz uniquement là?
Non, toute énergie confondue. Et l'Allemagne est très gourmand en gaz.
Il y a si peu de différence entre la France et l'Allemagne en termes de dépendance énergétique.
45% malgré et 65%. D'accord. C'est énorme.
Je m'attendais à davantage. Oui. Je pensais qu'on avait plus
d'autonomie.
C'est-à-dire
qu'on a besoin d'énergie fossile pour nos bagnoles. On a complètement défossilisé pour le mix électrique que j'évoquais tout à l'heure, mais dans le mix énergétique, rappelez-vous, l'électricité 25%, le reste 75%, et bien dans ces 75%, et bien on a besoin d'énergie fossile, on a besoin d'importer. Mais la France est quand même le mieux lotie en Europe. Et donc, c'est pour cette raison que la guerre en Ukraine rebat les cartes. Tout d'abord parce que l'Ukraine est le pays initialement de passage obligé du nucléaire historique, que l'Ukraine est un des pays les plus nucléarisés en Europe. Donc Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Pof, il s'est emparé de Zaporijja, le plus gros réacteur, le plus grande centrale nucléaire européenne. Parce que qu'avait fait Zelensky le jour de l'invasion? Et le jour de l'invasion n'est pas... C'est très peu dit, mais le jour de l'invasion de la Russie de l'Ukraine, Zelensky faisait un test de sortie du réseau électrique biélorusse et russe. C'est-à-dire qu'il faisait un test de déconnexion du réseau électrique. Et 15 jours après, donc le jour de l'invasion, le 22 février, hein, de mémoire, il fait un test, Poutine envahit, 22 ou 23 février.
24, oui,
il envahit, et 15 jours après, Zelensky dit sur Twitter... Nous sommes totalement déconnectés du réseau russe de l'électricité. Nous devenons un pays membre de l'Union européenne de l'énergie. C'est dire l'importance. Donc effectivement, Poutine a compris l'importance et il conserve l'Est. Pourquoi il conserve le Donbass? Parce que le Donbass, c'est 80% des ressources minérales et des sous-sols de l'Ukraine, à la rigueur. Il n'a pas l'Ukraine, il a la partie la plus intéressante d'un point de vue énergétique.
Essentiellement
le charbon,
où il y a
toutes les matières, plein de matières. D'accord. La Crimée, c'était pareil. La Crimée, c'est la Crimée, mais c'est aussi des réserves de gaz considérables en mer Noire. Donc, en fait, l'enjeu énergétique de cette guerre est fondamental. Et le caractère disruptif, quand on écoute les discours et de Vladimir Poutine et de Joe Biden... La dimension énergétique est toujours au cœur de cette guerre. On l'oublie parce que ce n'est pas la chose évidente, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, et c'est pour ça que je dis que c'est la troisième guerre mondiale qui a commencé avec le sabotage de Nord Stream, parce qu'évidemment, cette guerre en Ukraine, avec son volet Nord Stream, fait que pendant 20 ans, l'Allemagne à collaborer avec la Russie, avec une vassalisation de l'Europe via l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, et le sabotage de Nord Stream est en quelque sorte le fait qu'on coupe le cordon ombilical énergétique vis-à-vis de la Russie et on se met vassalisé par les États-Unis.
Ça, ça n'excuse pas l'agression russe.
Ça pourrait être mal interprété.
Mais non, oui. Mais j'explique factuellement en tout cas, pour, clair, pourquoi. Et donc, de ce fait, les États-Unis, dans... alors il faut voir la littérature. Et c'est passionnant parce que Rick Perry vient voir en 2019 Juncker, qui est à l'époque commissaire.
Jean-Claude Juncker,
le prédécesseur de Ursula von der Leyen. On est en 2019, ils veulent juste doubler leur capacité d'exportation vers l'Europe de gaz naturel liquéfié. Et là, en sortant de l'accord, il dit la chose suivante, une phrase forte, très très forte, très puissante. 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, nous venons libérer l'Europe, non pas avec de jeunes soldats américains, mais avec du gaz naturel liquéfié.
Cette phrase.
Quelle phrase ! Et ce n'est plus un débarquement par des hommes armés, c'est un débarquement par méthanier. Et c'est pas lui qui le dit, c'est moi.
Pas au même coup. Hein.
Et d'ailleurs, dans la dialectique, parce que c'est Donald Trump qui à l'époque est au pouvoir juste avant, dans la dialectique des hiérarques américains, ils parlent de freedom gas. Ils disent, nous allons apporter à l'Europe le gaz de la liberté ou les molécules de la liberté pour libérer l'Europe du joug autoritaire du gaz gazoduc. Donc, il faut bien comprendre, ça n'enlève rien. Moi, je prends factuellement ce que dit Poutine, ce que dit, qui fait une thèse d'ailleurs sur l'exploitation des ressources minérales en 1997. Il fait un article de synthèse en 1999 dans le livre, dans le magazine de l'Institut des Mines. Et quand on lit ça, ben on voit qu'il y a une tension énorme. Et à côté de ça, nos dirigeants européens sont complètement à côté de la plaque et alors, ne voient pas l'enjeu
très rapidement
de cette guerre énergétique.
Quelles sont les perspectives ? Est-ce qu'on peut espérer un apaisement ? Est-ce que l'Europe va parvenir à retrouver une autonomie énergétique ?
Eh ben, c'est pour ça que je plaide pour le nucléaire. Parce que, en fait, le nucléaire, hier, il y avait un grand rassemblement à l'initiative de la France. Seul un plan nucléaire européen, c'est-à-dire un PNE, ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire un plan Messmer à l'échelle de l'Europe, va permettre de recréer une autonomisation. Parce qu'en fait, vous avez deux tensions très fortes en Europe. Vous avez l'Europe des énergies intermittentes. Et d'ailleurs, c'est créé deux alliances en Europe. L'alliance des énergies intermittentes sous l'égide de l'Allemagne, avec plusieurs pays, l'Autriche, le Luxembourg, l'Espagne, qui sont tous les producteurs d'éoliennes et les financiers de l'éolienne. Et l'alliance...
Qui s'effondre, d'ailleurs.
Qui s'effondre. Et l'alliance du nucléaire, qui promeut le regain du nucléaire, parce que le nucléaire, avec les nouvelles technologies du nucléaire que j'évoquais tout à l'heure, et c'est d'ailleurs au cœur de cette grande messe qui est intervenue avant-hier à l'initiative de la France à Bruxelles, eh bien, est une solution incroyable parce que le nucléaire, c'est des emplois non délocalisables, c'est une énergie dont nous disposons, ces fameux 300 000 tonnes d'uranium appauvri et couplé avec le plutonium que nous avons sur notre sol, permet d'envisager justement une Europe de nucléaire. Et rappelons une chose importante, François de Voyer. L'Europe, et ça, je voudrais insister là-dessus, ça ne me fait pas de moi un européiste convaincu de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais l'Europe qui s'est constituée en 1957, c'était deux traités, deux traités fondateurs, les piliers. Alors, ça a d'abord été en 1951-52, la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a été un échec. Mais ensuite, en 1957, après la nationalisation du canal de Suez par Nasser, ils sont bien forcés de constater que l'Europe a un problème d'approvisionnement. Et donc, ils créent la communauté européenne économique, la CEE, et le même jour, à Rome, la communauté européenne de l'énergie atomique.
L'Euratom.
Et qui sont les deux piliers fondateurs de l'Europe. L'Europe, c'est le nucléaire. La paix en Europe, c'est le nucléaire. J'insiste là-dessus.
On peut même l'étendre au monde. Parce
on peut l'étendre au monde.
Sur le plan militaire.
Mais parce que
le
nucléaire militaire, oui.
Juste une interruption. Sauf que quel est le problème de l'énergie nucléaire? C'est qu'il faut un État-nation fort, souverain, organisé, avec des systèmes de sécurité puissamment contrôlés, avec une longueur de vue de plusieurs, idéalement, centaines d'années à minima pour gérer les déchets nucléaires, etc. On sait que certains États n'ont aucune envie de voir se développer le nucléaire dans certains pays pour différentes raisons. D'où, après l'accident de Fukushima, la disparition du nucléaire allemand, qui a été fait tout de même sous la pression très forte de certains lobbies en Allemagne, sous l'influence aussi américaine, sous l'influence des opinions publiques qu'on a assez largement manipulées. Donc est-ce qu'on n'est pas à l'abri? Si on commence à prendre une forme d'autonomie par le nucléaire en Europe, ce qui semble être dessiné par la réunion récente à Bruxelles, on parle de deux EPR par an pour la France, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe? Là, imaginons par exemple Zaporijja, explosion, je vous assure que le nucléaire, le programme s'arrête tout de suite. Alors, même si, non mais, vous voyez ce que je veux dire, on est très dépendant.
Alors, d'abord, une centrale nucléaire n'explose pas comme une bombe.
Je me souviens d'avoir interviewé Bernard Accoyer, donc qui est un grand défenseur du nucléaire français en France, ancien président de l'Assemblée nationale. Il disait pendant 10 ans, tous ceux qui prônaient le nucléaire ont été bâillonnés, littéralement. Il y avait une mafia anti-nucléaire.
Alors. D'abord, premièrement, je voudrais juste rappeler une chose. La catastrophe après, de Fukushima n'est pas une catastrophe nucléaire. C'est un tsunami, et qui n'a pas fait de mort.
Il n'y a eu aucun mort. Nous sommes d'accord. Mais ça a servi pour que l'Allemagne... C'est quand même l'occasion qui a entraîné la fermeture.
Ce qui est clair, et je ferai juste ce point-là, c'est que se crée actuellement une tension intra-européenne entre deux alliances. Une alliance nucléaire qui représente l'Europe historique... et une alliance des énergies intermittentes déviante par rapport à l'Europe historique. Et moi, je ne serais pas surpris que tout ça provoque un duckshit, parce que si l'Allemagne ne veut plus participer à l'Europe historique avec les racines fondatrices de l'Europe, eh bien c'est qu'elle est contre la paix en Europe. En fait, ma position est très claire. Moi, je suis pour la reconstruction d'une Europe des nations par une souveraineté nucléaire en reprenant l'historique du nucléaire.
Très bien. Tanguy de Vienne.
Eh bien, écoutez, exposé, oui, vraiment très complet et très instructif. C'est vrai qu'on ne peut que rebondir sur le fait d'être le plus autonome possible. Et c'est vrai que si le nucléaire ne fait l'objet d'aucune opposition, en tout cas de moins en moins aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'anti-nucléaire. Par contre, on parle d'énergie alternative en se fourvoyant totalement, mais je crois encore là volontairement et par idéologie, pour ne pas dire par intérêt. On sait que, par exemple, les éoliennes, ça ne fonctionne absolument pas. J'encourage d'ailleurs tout le monde à regarder le fil d'actu qui fait un résumé, en tout cas un exposé sur ce que représentent les éoliennes dans nos contrées. On a vraiment l'impression que la diagonale du vide n'avait pas subi assez de désertion pour que maintenant elle soit envahie par des éoliennes géantes, ce qui est absolument scandaleux. Enfin, je veux dire, les derniers à qui on demande leur avis, ce sont justement ceux qui habitent sur place. Donc, c'est vrai que l'éolien, lui, est balayé. Enfin, de toute façon, les actions s'effondrent. Enfin, je ne sais plus exactement quels sont les acteurs, mais il faut lire votre livre qui est très clair là-dessus, très étayé. Je m'adresse naturellement à Fabien Bouglet. Je voulais parler aussi de la méthanisation, parce qu'il y a un grand projet en France où on nous parle de méthanisation en disant que ça va être fantastique, parce qu'on va faire comme les Allemands, qui ont abandonné la méthanisation. Enfin, ils ne l'ont pas vraiment abandonné, mais ils ont cessé de la sponsoriser.
Les méthaniseurs géants.
Les méthaniseurs géants, exactement. Parce que là, à partir de 2014, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était absolument pas une bonne voie, dans la mesure où la méthanisation non seulement crée une pollution, on soustrait, ou en tout cas, on minimise les conséquences. On est aussi dans des organes, et c'est là où, en fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, François Doyer, sur le fait d'être tributaire d'une production. Et là, ça me fait penser à Aurore Stéphan, qui nous parlait de l'inertie de la production d'énergie. Et c'est vrai que lorsque le Covid nous est tombé dessus avec le confinement généralisé, on s'est aperçu que le pétrole ne pouvait pas s'arrêter d'être produit, ou plutôt d'être extrait, à tel point qu'il était devenu à prix, enfin que son prix était devenu négatif. Donc on voit bien aussi que les grandes unités non seulement sont exposés au fait de disparaître et donc de créer un choc d'approvisionnement, mais vertical, c'est-à-dire que bon, une centrale nucléaire s'arrête, c'est tout à coup une grosse unité de production qui stoppe. Et finalement, on pallie à ce danger-là lorsque l'on a des petites unités de production très disséminées qui ont une production locale et également un besoin, alimente localement. Donc en fait, la production est locale, la consommation est locale. Et en fait, je crois beaucoup à ce modèle-là qui rejoint d'ailleurs un petit peu, et pas simplement à l'échelle individuelle. Je parle à l'échelle de village, de ville, voire même de région. Et c'est ce schéma-là qui finalement pallie aussi à ce risque beaucoup plus global de se voir confisquer des grosses unités de production.
Merci Tanguy de Vienne. Un petit point d'actualité, Gabriel Attal, notre Premier ministre, a lancé une grande consultation vendredi 15 mars, prévue pour l'année prochaine, sur la stratégie énergétique. En une phrase, vraiment quelques mots, qu'est-ce que vous en dites, Jean-Marc Governatori?
J'en dis qu'il est impératif de reposer sur la diversité, hein. Il est capital d'avoir utilisé toutes les sources d'énergie. Et nous ne soutenons pas ni une France, ni une Europe nucléaire, ni une Europe, ni une France, qui, évidemment, sur les énergies fossiles. Mais la sécurité, tous les emplois et toutes les économies reposent sur l'énergie. Et par conséquent, il faut un mix énergétique aussi large que possible.
Très bien.
Moi, je dirais que c'est encore une énième consultation dans un... Voilà, créer une commission quand vous avez un problème. Il faut, là, je dirais, lancer... une grande politique nucléaire en France et en Europe, être un modèle, s'occuper de l'hydrogène blanc, évidemment, qui est un apport incroyable pour les pics de consommation. Et donc, je m'insurge contre cette énième consultation qui a d'ailleurs été demandée par ces fameuses officines dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont toutes été reçues par le Premier ministre et le ministre de l'Énergie.
Tant qu'ils avaient une phrase.
Je partage la vision de Fabien Bouglet et je trouve que ces commissions, en réalité, sont pipées dans la plupart du temps, en fait, puisqu'il y a des a priori, des présupposés.
Alors, cette émission touche à sa fin, mais il vous reste encore, chers invités, une minute pour exprimer. J'aime toujours qu'on termine par une note d'espérance. On a tout de même une atmosphère assez morose sur énormément d'enjeux. Donc, j'aimerais que chacun vous ayez un petit message sur le plan de la politique énergétique et plus largement, peut-être, de la question écologique. Un petit mot avant de quitter nos chers auditeurs.
Notre planète est potentiellement un paradis. À la base, l'air est respirable, l'eau est potable, les terres sont fertiles. C'est uniquement l'activité de l'homme prédatrice qui a causé les problèmes que nous connaissons tous en matière de santé, en matière de réduction de stock de matières premières. Et par conséquent, fort de nos expériences, nous pouvons évoluer dans notre logiciel économique et notre logiciel comportemental.
Fabien Bouglet, très
vite. Moi, je vais faire cocorico. Parce que la France est un des plus grands acteurs du nucléaire dans le monde. Et justement, on a notre épingle du jeu à tirer. Il faut être optimiste parce que c'est la solution pour la relance économique de notre pays par rapport à cette morosité. Le nucléaire est la solution avec un grand L.
Et Tanguy de Vienne.
Eh bien, je ne contredirai aucun des deux discours, ou en tout cas des deux conclusions. Je ferai simplement la promotion, effectivement, de ce qui est, local, là encore. Et je pense que, aussi bien dans l'agriculture que dans les circuits courts, pour l'énergie doit être concernée également. Et en fait, en se débarrasser de tous ces a priori et du gigantisme systématique.
Parfait, merci à tous les trois, les pâturages du ciel. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à nos invités, merci Jean-Marc Governatori, merci Fabien Bouglet, merci Tanguy de Vienne.
Ce fut un plaisir.
Vous nous avez permis d'y voir beaucoup plus clair. En tout cas, vous m'avez permis d'y voir beaucoup plus clair dans cette jungle de l'énergie. Et j'espère que ce sera le cas de nos auditeurs également. Je vous souhaite une excellente soirée, bien sûr, sur Radio Courtoisie.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Vous venez d'entendre Les Pâturages du Ciel, dirigé par François Devoyer, émission diffusée en direct sur Radio Courtoisie, samedi 23 mars 2024 de 18h à 19h30 et réalisée par Jocelyn.